Esprit, es-tu là?
Tout cela n'est pas nouveau. On sait les trésors d'imagination et d'ingénierie que les pharaons égyptiens ont déployés pour que leur âme puisse mener une nouvelle vie après leur mort. Mais le mouvement spirit arrive à un moment où, avec les travaux de Freud ou de Jung et les recherches scientifiques très novatrices sur le cerveau, les tempêtes sous un crâne, comme dirait Victor Hugo, passionnent les esprits. C'est aussi l'époque où le religieux perd du terrain, l'âme se dépouille peu à peu de son caractère sacré et les fantômes se mettent à hanter les salons bourgeois de ce siècle avides d'expériences nouvelles. Si les esprits de nos défunts peuvent ainsi se manifester, c'est que la conscience individuelle n'est pas une émanation d'un objet physique, le cerveau, qui a été mangé par les vers, mais une entité transcendantale qui vit dans un autre monde, dans une autre dimension en fait. C'est aussi à cette époque qu'un médium, Edgar Cayce, se fait connaître en soignant des malades alors qu'il n'a aucune connaissance médicale. Comment fait-il ? Il consulte par médiumnité les archives akashiques, appelées aussi annales akashiques. Selon les théosophes, ces archives ou annales sont des sortes d'enregistrements de tous les événements du monde, les événements mais aussi les pensées, les émotions. C'est la mémoire des âmes. Rien de scientifique à ce jour n'a attesté l'existence de ces archives, mais elles viennent compléter un tableau de l'invisible où la conscience trouverait sa place. En fait, la conscience n'appartiendrait pas au monde physique, elle n'en serait pas l'émanation, elle appartiendrait au monde mental, invisible, et obéirait à d'autres lois, notamment à d'autres lois spatiales et surtout temporelles. En fait, l'idée d'une liaison stricte entre le cerveau et la conscience a commencé à prendre du plomb dans l'aile quand des expériences de vie après la mort, ou NDE, Near Death Experience, ont été relatées par un nombre croissant d'individus. Tout est parti d'un livre du psychiatre Raymond Moody, Life After Life, paru en 1975. À cette époque, en effet, les techniques de réanimation de patients, qui semblaient cliniquement morts, se sont considérablement améliorées et les personnes ainsi ressuscitées, pour ainsi dire, ont pu raconter ce qu'elles avaient vécu pendant leur phase d'inconscience. Or, justement, elles n'avaient pas été inconscientes, comme leur état semblait le suggérer. Elles avaient vécu des expériences conscientes d'une autre nature que l'expérience commune. Elles racontaient souvent s'être retrouvées collées au plafond, et avoir assisté à tout ce qui se passait dans leur chambre d'hôpital, le travail du personnel médical, les visites de la famille et des proches. Elle racontait aussi avoir reçu une invitation à se diriger vers une intense lumière au fond d'un tunnel. Là, souvent, les attendaient des proches décédés qui, en général, leur disaient qu'il n'était pas encore l'heure de mourir et les incitaient à retourner dans leur chambre. Le livre du docteur Moody a fait sensation, car il semblait accréditer le principe d'une survie de l'âme à la mort physique. Il a été très critiqué, naturellement, l'argument principal étant que ces personnes réanimées, par principe, n'étaient pas mortes. Pas totalement. On pouvait donc attribuer leur récit aux nombreuses substances chimiques qui leur étaient administrées et non à leur mort. On imaginait que dans ces moments de mort imminente, le cerveau produisait des substances apaisantes pour faciliter le passage, substances qui pouvaient générer les images et les sensations racontées par les réanimés. Mais les récits se sont multipliés et les langues se sont déliées. Des expériences ont même été entreprises pour valider les informations données par les personnes inconscientes. Certaines pouvaient décrire précisément le personnel médical s'étant rendu à leur chevet, ou le déplacement de certains objets. Et il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'elles disaient vrai. Collées au plafond, leur conscience avait bien enregistré des faits, faits dont elles n'auraient pas eu connaissance depuis leur lit. Les récits concernant les tunnels avec de la lumière au bout n'ont pas pu faire l'objet d'expériences et donc il a été difficile pour les scientifiques de leur apporter un certain crédit. En revanche, les témoignages des visions des patients inconscients dans leur chambre ont troublé les esprits, même les plus sceptiques. Impossible d'expliquer tous ces phénomènes par la seule production d'hormones. D'autant qu'il n'y a pas que les personnes dans le coma qui vivent ce genre d'expérience. Il s'agit en fait d'un phénomène assez fréquent qu'on appelle une sortie astrale. De nombreuses personnes en très bonne santé, en dehors de tout accident ou maladie, en ont expérimenté une sans le chercher, parfois dans des endroits insolites. Et là encore, les langues se sont déliées, notamment après l'apparition du premier livre de Daniel Moroy-Givaudan en 1980, Récit d'un voyageur de l'astral, suivi en 1983 de Terre d'émeraude. Écrit avec Anne Moroy, ces livres décrivent des décorporations que les deux époux ont vécu à partir de 1971. Ils racontent avoir notamment visité les fameuses annales akashiques, dont j'ai parlé plus haut. à propos d'Edgar Cayce. Leurs ouvrages ont suscité beaucoup de critiques et de scepticisme, naturellement, mais ils m'ont personnellement beaucoup impressionné et inspiré. Comme je l'ai raconté dans mon récit « Ces vies dont nous sommes faits », je me suis livré, de 1987 à 1990, à des expériences de méditation qui m'ont permis de voyager dans le temps et dans l'espace par l'esprit. Mais au fil de ces exercices assez intenses, j'ai bien senti que quelque chose cherchait à sortir de mon crâne. Je sentais une poussée à l'arrière de ma tête et il a fallu que je me contrôle pour faire cesser le phénomène, terrifié à l'idée que si je quittais mon corps, une âme errante viendrait s'y installer. Mais j'ai alors acquis la certitude que mon âme voulait quitter mon corps, que mes exercices de méditation avaient un peu distendu le lien qui unissait solidement l'une à l'autre. Ils n'étaient plus aussi solidaires. Voici ce que je raconte dans mon récit.
Début de l'extrait.
100 fois, au cours de précédentes méditations, j'ai failli sortir de mon corps, mais au dernier moment, pétrifié de peur, j'avais renoncé et interrompu le processus qui s'était mis spontanément en route, sans que je le veuille. Il me fallait vaincre cette peur. Je savais que si l'on surmonte sa peur, s'ouvrent de magnifiques perspectives. Je devais trouver à visualiser cette idée, la plus grande joie est cachée derrière la plus grande peur. Je me suis souvenu alors de l'histoire d'une des pionnières de l'aviation, Adrienne Bolland. Elle fut la première aviatrice à découvrir une passe à travers la cordillère des Andes pour relier l'Argentine au Chili. Aucun avion de l'époque ne volait assez haut pour passer au-dessus de la montagne. Il fallait donc trouver une voie de passage. Des aviateurs s'y étaient essayés avant elle. Ils avaient lancé leur avion dans une passe qui paraissait prometteuse. Hélas, ils avaient tous péri. La veille de sa tentative, une vieille dame est venue voir Adrienne Bolland à son hôtel et lui a décrit le chemin qu'elle devait emprunter. D'abord, on aperçoit un lac en forme d'huître. Puis, il y a une paroi qui se dresse face à soi, abrupte. Mais il faut voler vers elle, car au dernier moment, sur la droite, il y a un passage qui mène vers le Chili. Avec beaucoup de courage, Adrienne Bolland suit le conseil de la vieille femme. Elle repère le lac en forme d'huître, elle voit la paroi brute et lance son avion dessus. Elle doit naturellement vaincre la plus grande peur de sa vie. Elle va s'écraser sur cette paroi et connaître le même destin fatal que les autres aviateurs. Mais comme lui a dit la vieille femme, au dernier moment, l'aviatrice aperçoit sur sa droite un passage et réussit à gagner le Chili. Une route est ainsi ouverte grâce à elle. Pendant des semaines, je m'astreins à répéter cette scène mentalement pour visualiser la paroi abrupte, ma très grande peur, la mort qui vient, puis finalement l'ouverture de la voie. Ainsi, je finis par dominer ma peur. Étant parvenu à relier l'Argentine au Chili par l'esprit, une sortie astrale ne devrait plus m'effrayer. Un matin, je crois être sur le point de réussir. Je suis prêt moralement à tenter une sortie, mais rien ne se produit. Je suis trop tendu. Je me demande vraiment ce que je vais découvrir pendant ce voyage. Qui je vais rencontrer, où je vais aller. La curiosité est très forte et je sens que je dois franchir ce cap. Découvrir par moi-même directement ce qui se passe derrière le rideau et ce qui me guide depuis le début de cette aventure, il y a près de 3 ans. J'ai franchi peu à peu toutes les étapes, les voyants, les régressions, la médiumnité, les fantômes, les voies intérieures. Il faut maintenant que je dissocie ma conscience de mon corps et que j'aille y voir de plus près. C'est inévitable. Sinon, tout ce chemin n'aura servi à rien. J'ai certes vécu des émotions très intenses, mais pratiquement sans quitter ma baignoire. Je dois faire le grand saut et aller visiter moi-même l'au-delà. Et pourquoi pas aller consulter les annales akashiques, chères au médium Edgar Cayce, et qui contiennent toute l'expérience humaine? Mais j'ai trop peur. Je décide donc de renoncer. Je sors de mon bain, passe un peignoir et vais m'allonger sur mon lit pour m'endormir. Et il suffit de cette détente soudaine pour que le phénomène se produise. Je sens mon esprit quitter ma tête par la base du crâne et tout de suite, je me retrouve coincé sous le plafond de ma chambre, plongé dans l'obscurité. Je me dis, surtout n'aie pas peur, tout va bien se passer. Comment un phénomène pareil est-il possible ? À ce moment précis, ma première idée est de regretter que des scientifiques n'étudient pas de près ce genre d'expérience. En général, ils se contentent d'analyser les témoignages de personnes qui ont vécu des sorties astrales. Comment la conscience peut-elle ainsi se détacher du corps et aller se coller au plafond ? Sans convaincre les témoins, ils expliquent le phénomène par un dédoublement de personnalité proche de la schizophrénie. Or, l'expérience, avec un peu d'entraînement, est parfaitement reproductible. Pourquoi dès lors des scientifiques ne tentent-ils pas eux-mêmes une sortie ? Ils en concluraient sans doute que la conscience n'est pas un phénomène physique localisé dans le cerveau, et cela remettrait en question beaucoup de certitudes. C'est une chose de lire ce type d'expérience dans un livre, c'en est une autre de la vivre. Mon point de conscience est bien sous le plafond, dans le coin de la chambre, et non pas en bas dans mon corps. Ce corps qui est allongé sur mon lit, et que je ne vois pas très bien, il était comme masqué par du noir. Irina m'expliquera plus tard qu'on l'a masqué pour que sa vision ne me panique pas. Mais je vois très bien mon lit, ma table de chevet, les murs de ma chambre, la fenêtre, tout. Rien à voir avec un rêve, rien à voir avec une rêverie éveillée. Ma conscience est bien sortie du corps et est allée se loger au plafond. Elle est alerte, pas du tout endormie, au contraire même, mes sens sont en éveil, comme jamais sans doute ils ne l'ont été. Curieusement, je me sens respirer aux deux endroits, dans le lit et au plafond. Très vite, je m'habitue à ce nouvel état. Pas d'autres âmes à l'horizon, je suis seul dans ma chambre, enfin, seul avec moi-même, allongé en bas. Je prends un peu d'assurance, je me dis que je ne vais pas rester comme un ballon collé au plafond. Je n'ai qu'à émettre le désir d'aller dehors pour qu'aussitôt je traverse ma fenêtre et mes volets fermés et que je me retrouve à quelques dizaines de mètres au-dessus du bitume de ma rue. Curieusement, il fait nuit dehors, alors que le jour était levé depuis longtemps quand j'ai regagné ma chambre après l'échec de ma tentative dans la baignoire. Ai-je remonté le temps ? Je me mets à danser au-dessus de la rue, comme un fou, pendant que les voitures passent en dessous de moi. Puis, courageux mais pas téméraire, je demande à regagner ma chambre. J'en ai assez vu pour une première sortie astrale. C'est totalement terrifiant. Terrifiant de naturel, de simplicité. Il y a toute cette vie-là à portée de l'esprit, cette vie qu'on ignore. Je rentre dans ma chambre en passant comme si de rien n'était, à travers les volets et la vitre de la fenêtre, et je m'apprête à regagner mon corps qui est encore allongé sur le lit. Je me tiens debout et je commets l'erreur de regarder mes pieds, car j'avais des pieds. Les miens étaient censés être dans le lit avec mon corps. Ces pieds-là sont en quelque sorte une sorte de réplique immatérielle, ou du moins à peine matérielle. Ils flottent un peu au-dessus du parquet, s'enfoncent dans les lattes, remontent. Curieusement, cette vision des pieds me terrifie complètement. Cela a pour effet de me ramener rapidement dans mon corps. Je me souviendrai toujours de la sensation à ce moment-là. J'étais allongé en chien de fusil, et mon âme reprend exactement la même position pour venir coïncider avec le corps physique. Et une fois que les deux sont épousés parfaitement, je me réveille, ou plutôt, comme je n'étais pas endormi, je reviens à une conscience classique, dirais-je. L'expérience me laisse pantois. Quand je regarde mon réveil, mon désarroi augmente encore d'un cran, alors que l'expérience m'a semblé durer quelques secondes à peine, 2 heures se sont écoulées entre ma sortie du corps et mon retour dans la chambre. Qu'ai-je donc fait pendant ces 2 heures ? Pour Irina, à qui je raconte mon aventure quelques jours plus tard, pendant ces 2 heures, mon âme est allée régler quelques affaires. Puis, jugeant sans doute que cela ne me regardait pas, ou que je l'ai encore tremblé comme une fillette, elle en a effacé le souvenir en moi.
Fin de l'extrait.
Cette expérience est la plus déroutante de ma vie. Elle va d'ailleurs mettre un point final à mes expériences spirituelles extrêmes. J'ai vraiment eu trop peur. Mais j'ai compris ce jour-là que la conscience n'était pas dans le cerveau. Pas que dans le cerveau. Elle navigue dans un vaste espace invisible, mais l'incarnation fait qu'elle se connecte naturellement à un organe du corps humain, le cerveau, qu'elle modèle sans doute autant qu'il la modèle. Ces témoignages de décorporation sont si nombreux que les scientifiques ont bien été obligés de se pencher dessus. Ils ont en général conclu à un phénomène électrique. En insistant sur la zone médiane entre les lobes temporal et pariétal, le gyrus angulaire droit, ils ont pu provoquer une sensation de sortie du corps sur une patiente éveillée atteinte d'épilepsie. Certes, mais d'autres expériences, notamment de personnes inconscientes, ont montré que l'origine électrique du phénomène n'expliquait sans doute pas tous les cas. C'est sans doute prendre la conséquence pour la cause. Je me dis souvent qu'avant de lancer des explications de cette sorte, les chercheurs seraient bien inspirés de réaliser eux-mêmes une sortie du corps, comme j'en ai moi-même réalisé une volontairement après quelques mois d'entraînement. Ils constateraient alors d'eux-mêmes que l'expérience est tout à fait hors norme et soulève bien des interrogations. Pour l'instant, le vaste champ de ce que l'on appelle les états modifiés de conscience reste à explorer scientifiquement. En tout cas pour moi, il est clair aujourd'hui que la conscience n'est pas dans notre cerveau, même si c'est grâce à lui qu'elle peut donner d'elle-même son expression la plus sophistiquée.